Les marchés boursiers ont beaucoup monté depuis quelques mois. Je regardais le S&P 500 entre la fin du mois d'octobre et la fin mars. On parlait d'une montée de 25 %. Et là, depuis le début avril, on sent vraiment là, une hésitation. Pour en discuter, le conseiller financier Frédéric Turcotte est avec nous. Comment ça va, Frédéric?
Salut Pierre, ça va très bien, merci.
Oui, les marchés ont beaucoup monté. Il ne faut pas se décourager. Il y a des gens qui vont dire « je vais attendre que ça replante ». Souvent, ça ne replante pas. Là, il peut y avoir des poches de décompression, mais il faut rester investi dans le marché.
Ah, tout à fait. Écoute, j'entends ça, Pierre, chaque semaine. C'est trop cher. Je ne veux pas investir là. Ça ne marche pas. On a manqué le bateau. On va attendre. Alors, ça, c'est une des jobs des conseillers financiers que c'est à chaque fois qu'on atteint des sommets ou des montées comme on a eu dans les derniers mois, comme tu l'as illustré, oui, il y a des petites baisses 5-10 % des fois de marché. Là, c'est des corrections, des prises de profit. Mais investir quand le haut du marché, on est dans le haut du marché, ça peut être intéressant quand même. J'ai sorti deux graphiques de JP Morgan Asset Management à travers les gens de fidélité qui nous ont fourni ça. Et ça montre quelque chose de vraiment intéressant. Ça dit, depuis 1950, le Standard & Poor's 500, on parle seulement du marché américain, qui est quand même le plus gros marché. Donc, depuis 1950, le plus haut sommet a été atteint 6,6 fois. Donc, il y a 6,6 fois de jour où le marché est à son sommet à vie. Okay? Alors, c'est quand même pas un si gros chiffre que ça. Mais par contre, sur le nombre de jours aussi, le plus haut sommet fait un plancher pour presque 30 % des journées. Donc, à 29,6 %, ça constitue le plancher sur lequel le marché va continuer de monter. Et là, c'est ce qui est le bout qui est vraiment intéressant, c'est le rendement du marché par la suite, une fois qu'on rembarque dans ce plancher-là. Alors, c'est certain qu'acheter dans un creux de marché, on s'entend que c'est ça l'idéal et c'est ce qu'il faut faire, mais ce n'est pas toujours facile à voir et ce n'est pas toujours facile.
Ben, c'est pas toujours. Oui, ça est arrivé en 2008 quand le marché a crashé de 50 %. C'était une crise financière incroyable. Exact. 2020 avec la COVID, à part ça, ça a toujours monté. Là.
Exactement. Mais puis, alors, donc, si on essaie de jouer les devins et de se dire on va attendre le prochain cru, on manque le bateau.
Ben oui.
Alors, sur le rendement cumulatif sur 3 ans, du Standard & Poor's 500, si tu as acheté le plus haut dans le marché, bien, tu as fait 48,1 % versus 40 % dans n'importe quel autre moment. Donc, 48 % si tu as acheté sur le plancher qui s'est fait avec les sommets, le nouveau sommet atteint, ou si tu as acheté n'importe quand, ton rendement est à 40 % sur 3 ans. Sur 2 ans, c'est encore là de rendement cumulatif, 28,9 % si on entre au sommet. Puis à n'importe quel autre moment où tu embarques ton argent dans le marché, tu as fait 25 %. Donc, ouais, c'est quand même une différence importante pour quelqu'un qui achète toujours sur le haut du marché. Alors, donc, on s'entend, comme je l'ai dit, que le cru historique, c'est toujours plus le fun, mais c'est vraiment une statistique intéressante pour voir que même si on achète quand le marché est cher, on réussit quand même sur le long terme. Enfin, là, sur 3 ans, 2 ans, les statistiques, mais sur le long terme, on réussit quand même.
Ah, sur le long terme, c'est encore plus élevé parce que tu as manqué les journées payantes.
Exact.
C'est ça que je veux dire. Parce qu'il y a des journées payantes, là, vous n'avez pas idée, quand tu manques 2-3 journées payantes dans l'année ou dans une période de temps très serrée, oublie ça, tu ne pourras pas te refaire.
L'autre tableau que j'ai sorti, c'est lié à la hausse des taux d'intérêt. Bon, on sait qu'ici, en Amérique du Nord, Canada, ça fait depuis juillet 2023 que les taux ont arrêté de monter. Si on arrive bientôt presque à 1 an. C'est quand même incroyable, d'un an de plateau de hausse de taux d'intérêt. Et là, si on regarde ça historiquement avec les données des périodes 88-89, 94-95, 2015-2018, puis là, on fait un graphique, tes auditeurs, il faut qu'ils visionnent ça. On fait un graphique. À l'horizontale, c'est les mois de progression du marché et à la verticale, c'est le rendement. Alors, on part de zéro quand c'est la dernière hausse. Donc, juillet 23, presque un an maintenant. Et là, on regarde les périodes que je vous ai mentionnées où il y a eu cette fin de hausse des taux. Et les graphiques sont tous dans le positif, ça monte. Et puis, notre période, on a 9 mois de fait à peu près. Donc, on est à 22-23. On est en train de suivre cette tendance-là. Donc, une fin de hausse de taux, ça veut dire un marché boursier. Généralement, si on se réfère aux périodes passées, de façon positive pour les actions. Puis, la même chose pour les obligations aussi. On se dit toujours, est-ce que les obligations vont finalement monter après un arrêt de hausse des taux? Encore, si on regarde les périodes, puis je t'ai envoyé les graphiques, Pierre, tu peux les voir, les commenter. Si on regarde les périodes subséquentes de fin de hausse de taux Encore celle que l'on, dans laquelle nous sommes présentement, on suit une tendance à la hausse, peut-être moins évidente un petit peu, mais on voit quand même que l'effet de la fin de la hausse des taux sur le marché obligataire aussi, c'est positif. Alors, donc, sous, tous ceux qui ont peur de rentrer dans le marché, que ce soit obligataire ou des actions, parce qu'on est haut, on est dans un contexte particulier là, de fin de hausse de taux déjà depuis plusieurs mois, eh bien, je pense qu'il faut quand même considérer ces données-là historiques, qui ne sont pas nécessairement les données du futur, mais quand même qui nous donnent une très bonne indication sur ce qui peut arriver.
Oui, puis tu peux au pire aller, si le marché baisse, tu peux en racheter pour faire baisser ton coût d'acquisition. Là.
Là. Oui, tout
T'sais,
à fait.
c'est ce que les conseillers financiers disent de faire aussi, là,
Oui.
conseil d'affaires. Donc voilà pour cette peur d'investir dans le haut du marché, où on pense que c'est un haut de marché, là, évidemment. Les meilleurs et les pires fonds négociés en bourse pour le premier trimestre de 2024.
Oui, bon, tu l'as mentionné en introduction, le marché a performé depuis octobre de façon incroyable. Alors, écoute, je me suis intéressé à aller voir ce que les fonds négociés en bourse, les ETF, ont donné dans le premier trimestre, donc les 3 premiers mois de l'année 2024. Alors, on parle souvent aussi, toi et moi, que ceux qui redécollent rapidement, c'est les small caps. Hein. La définition de small cap aux États-Unis, là, c'est en bas de 3,5 milliards de capitalisation boursière. 3,5 à 9, c'est mid cap. Puis en haut de 9 milliards de capitalisation boursière, c'est des large cap, là, les grandes compagnies que tout le monde connaît. Alors, celle qui a performé le mieux, dans les premiers 3 mois de l'année, c'est un indice qui regroupe 80 compagnies. C'est Invesco qui fait ça. C'est Small et Mid Cap du Standard & Poor's. C'est des 80 compagnies de qualité qui a donné un rendement de 24,34 %. Puis les deux autres le suivent à 23 %, 22 %. Donc, ce sont des fonds, des indices basés, faits par la compagnie Invesco. Et donc, qui ont donné quand même un rendement sur 3 mois. Donc, dans une diversification de portefeuille, le small et le mid cap doivent être présents. Et c'est quelque chose qui doit donner un rendement lorsqu'on est dans un retour. En fait, on n'est pas caractérisé la dernière période comme étant un retour de l'économie en force, mais ça a été un peu quand même le cas. Aux États-Unis, la consommation est là, le chômage est bas. Alors, ces indices-là ont très bien performé. Puis, je suis allé voir en dessous du capot un peu pour comprendre un peu quelles compagnies se retrouvent dans ces 80 compagnies-là de cet indice d'Invesco. Alors, il y en a très peu de connues. C'est toutes des compagnies. La première position, c'est Williams Sonoma. Ils font des produits de cuisine, des machines à café, des meubles, des accessoires de maison. Donc, il y a la première compagnie qui compose cet indice-là. Après ça, deuxième, c'est une solution de transport aux États-Unis, Manhattan Associates. La plus connue dans les 10 premières, là, c'est Pierre, tu dois la connaître certainement. Si je te dis la Panthère Rose, qui dans les matériaux de construction, dans la laine minérale,
Oui.
Owen Corning, donc c'est la compagnie qui fabrique cet isolant-là, qui fait partie donc de cet indice, qui est une des 10 premières positions donc de l'indice. Et donc c'est des compagnies que l'on ne connaît peu, pas du tout, mais qui sont regroupées dans un indice, un peu comme dans un fonds mutuel, et qui ont donné quand même un rendement intéressant.